podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Aujourd'hui, on évoque Le cœur a ses raisons, un feuilleton de 3 saisons de 13 épisodes chacune, parodiant les soap-opéras américains, créés par Marc Brunet. Si le titre ne vous dit pas grand-chose, a priori, vous avez certainement déjà regardé l'un ou l'autre extrait sur YouTube. Le plus connu d'entre eux étant cette fameuse séquence où Brenda tente de laisser un message téléphonique à une certaine Becky, bien mal lui en prend puisqu'elle va se retrouver noyée par des « si vous êtes satisfaite de votre message, faites-le 1 » et autres « faites l'étoile ». La séquence a d'ailleurs été de nombreuses fois diffusée aux enfants de la télé notamment, mais derrière cette hilarante séquence se trouve une parodie désopilante des soap-opéras. Intrigue, tromperie, mensonge, sexe et violence. Le cœur a ses raisons mixe tout cela dans un cocktail hilarant. Une fois n'est pas coutume, c'est à des Québécois que l'on doit cette série. Et au casting, on retrouve les Québécois toujours Marc Labrèche et Anne Dorval. Pour nous en parler aujourd'hui, Nathanaël Picasse, et pour en discuter avec nous, Héloïse Rouard.
Bonjour.
Et Tillemont Villette.
Bonjour.
Effectivement, Le cœur a ses raisons, c'est une parodie des soap-opéras de Amour, gloire et beauté et autres top modèles et autres séries du genre. À l'origine, c'est une série de sketchs qui a été diffusée lors d'une émission de télévision. Et puis après, ça a tellement fonctionné qu'ils ont décidé en fait d'en faire une série. La série aura beaucoup de mal d'ailleurs de se détacher de cet aspect sketch, on va dire, puisque ce sera surtout des sketchs mis bout à bout avec une histoire plus ou moins suivi pour essayer de faire la jointure. C'est un feuilleton, donc c'est en fait une grande histoire, mais je vais essayer de vous en raconter le récit de manière vraiment très générale. Eh bien, on nous propose de suivre le quotidien de la famille Montgomery. Alors, la famille Montgomery, c'est une richissime famille. Il faut dire que le père, Doug, est un magnat d'une entreprise de cosmétiques. On n'en sait pas vraiment plus. Le feuilleton, Le cœur a ses raisons, commence au moment où il décède. Et donc, toute la famille est réunie autour de la dépouille du père et la question est qui va reprendre les rênes de la Montgomery internationale. Il y a plusieurs prétendants au titre, il y a les deux fils, les deux frères, Brett et Brad, qui sont joués par le même acteur d'ailleurs. Alors Brett, c'est un peu le fils chéri à son papa, mais au grand dam de son père, en fait, Brett ne voulait pas reprendre le flambeau familial, il voulait plutôt se diriger vers la médecine. Donc il est plutôt médecin. Son titre d'ailleurs de médecin évoluera beaucoup au fur et à mesure des saisons, parce qu'à un moment il est médecin, d'autres moment il est chirurgien, puis il est pédiatre et il est aussi gynécologue. Donc bon, ça, ils en ont vraiment pas grand chose à faire de la cohérence. Lui donc n'a pas tellement envie de reprendre le flambeau, mais le problème c'est qu'il va se retrouver malgré lui un peu imbriqué dans toutes ces intrigues de qui va devenir le prochain président de la Montgomery internationale, puisque son frère jumeau Brad, lui est totalement déterminé à prendre le contrôle total de la société jusqu'à essayer de tuer son frère ou en tout cas de l'évincer. À côté de ça, eh bien, il y a aussi la mère, la veuve éplorée, Crystal, totalement refaite de Botox, qui est un ancien mannequin et archéologue, je ne sais pas pourquoi, mais elle a été archéologue, soi-disant, qui ne comprend plus d'ailleurs trop bien ce qui lui arrive, parce qu'elle a tellement été botoxée que son cerveau lui empêche d'intégrer les informations comme elle le devrait, et donc la plupart du temps, avoir des discussions avec elle, elle pose des questions totalement idiotes, parce qu'elle ne sait plus, mais même à son fils, mais qui vous êtes en fait finalement, enfin, c'est assez rigolo. Mais elle veut aussi prendre le contrôle de la Montgomery internationale. À côté de ça, Brett est fiancé à Cricket. Alors Cricket, elle est reporter à la station de télévision de St. Andrews. Cricket, c'est une belle femme plantureuse avec une paire de seins assez impressionnante, on va dire. Le sosie un peu de Nana Mouskouri, comme Héloïse me disait ça tout à l'heure hors antenne. Effectivement, elle est pas ratée.
J'ai rarement trouvé Nana Mouskouri plantureuse.
Non, mais au niveau, c'est vrai, de la perruque noire, des grandes lunettes, voilà. Dès les premiers épisodes, en fait, Cricket sera victime d'une tentative de meurtre. Et toute la première saison va tourner autour de qui a tenté d'assassiner Cricket. Ils vont carrément même en faire une sorte de jeu télévisé, mais j'en parlerai tout à l'heure. À côté de ça, bien, Brad, lui, eh bien, on se rend compte qu'il est fiancé à Becky.
La fameuse Becky du téléphone.
Et Becky, c'est la concurrente de la Montgomery internationale. Elle a créé une crème de jour qui a très bien fonctionné et qui essaye par tous les moyens de couler la Montgomery internationale jusqu'à épouser un des fils et à lui faire un enfant. Et elle lui fera d'ailleurs un enfant qui sera noir. Et la particularité aussi, c'est que le père est stérile. Donc c'est vraiment rebondissement sur rebondissement. rebondissements. Je vais encore en citer un, mais qui n'est pas non plus un grand spoiler, on va dire. C'est l'apparition d'un troisième enfant, Montgomery, parce qu'en fait, ce sont pas des jumeaux, Brett et Brad, ce sont en fait des triplés, puisqu'il y a Brenda. Et Brenda, c'est la fameuse femme qui essaie de téléphoner à Becky dans cette fameuse séquence sur YouTube.
Donc, tu disais tout à l'heure que c'était il y avait un scénario très complet. On disait aussi qu'il y avait trois saisons. Est-ce que chaque saison comporte une histoire claire et définie, ou bien l'histoire s'écoule sur les trois saisons?
Non, il n'y a pas vraiment d'arc. Il y a des mini-arcs, on va dire, mais en même temps, le scénario n'est vraiment pas le point fort, mais ils s'en cachent pas du tout. À la base, c'est juste des sketchs qu'ils ont mis bout à bout. Donc, ils ont essayé de créer une histoire et se moquer de ces innombrables rebondissements qu'on peut avoir dans les soap-opéras, avec des personnages qui décèdent, qui reviennent à la vie, et des frères jumeaux, et des gens qui ont pris la place d'eux.
Et des chants contre chants.
Oui, des chants contre chants, énormément, et des ces longs plans où une révélation vient d'être faite, et longs plans avec une musique un peu tadin, et les personnages qui se regardent un peu... vous savez, ça dure très longtemps avec la caméra qui zoome vers eux, et voilà, ils en usent et en abusent. Dans l'histoire, je voulais encore parler d'un des derniers personnages qui est Ashley. Elle révèle sa présence au grand public à partir du moment où sa sœur Cricket, en fait, a été victime d'une tentative d'assassinat, et comme elle est sa sœur jumelle, elle se déguise après en Cricket pour essayer de confondre l'assassin. Enfin, le presque assassin. Il y a toute une partie assez comique du fait qu'elle ne savait pas trop comment pouvoir ressembler à sa sœur, alors bon, c'est la même actrice, donc forcément elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, mais sa sœur avait des lunettes et elle pas, et donc il ne savait pas comment résoudre ce problème pour essayer de se faire passer pour sa sœur.
C'est un peu le dilemme de Superman, quoi.
Voilà, c'est ça. Tout ce petit monde, s'entre-déchire, on va dire, pendant trois saisons pour essayer de prendre le contrôle de la Montgomery internationale. C'est d'ailleurs très drôle parce qu'ils s'en moquent eux-mêmes, puisqu'à un moment, dans la fin de la saison 2, il y a un personnage qui veut faire une proposition à un autre et qui dit, voilà, moi, ce que je voudrais, c'est m'associer à toi pour, et puis l'autre lui fait, prendre le contrôle de la Montgomery internationale. Et l'autre lui fait, mais comment tu as deviné? Ben, c'est la même proposition que tout le monde fait à tout le monde depuis 2 ans, donc en même temps, c'est pas difficile.
Ici Becky Walters. Je ne suis pas là pour l'instant. Laissez votre message.
Oui, alors bonjour Becky. C'est
si vous êtes satisfaite de votre message, faites le 1.
Ah ben non, je ne suis pas satisfaite.
Si vous voulez recommencer, faites le 2.
Le 2?
Vous avez fait le 2. Hmm? Si vous êtes satisfaite d'avoir fait le 2, faites le 1. Vous avez fait le 1.
Oui.
Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfaite de votre message. Ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfaite d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfaite de votre message.
Mais là, je sais pas, là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas.
Votre temps est écoulé.
Hein?
Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2. Ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer, le 8 pour entendre ses choix de nouveau, ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix.
Moi, j'avais le 7.
Vous avez fait le 9.
Non, mais non, j'ai pas fait le 9.
Dites le nom de la personne à qui vous désirez parler.
Becky.
Vous avez dit Ludmilla.
Non.
Pour choisir ce nom, faites le carré. Pour recommencer, faites l'étoile. Faites l'étoile sur le clavier.
Non, mais fallait le dire, ça, l'étoile, là.
Entrez le nom au clavier téléphonique.
Becky Walters. Becky, B-E-C-K-Y. Becky.
Vous avez épelé Waketeux.
Non.
Le Waketeux est un animal aquatique nocturne.
Match.
Oui, madame.
Il y a 5 personnages principaux, mais il y a que 2 acteurs qui jouent ces 5 personnages principaux.
Oui, tout à fait, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont beaucoup joué sur le système frères jumeaux ou triplés ou même sœurs jumelles. Et donc, c'était une facilité aussi, c'était de pouvoir s'amuser avec leurs acteurs et les faire se transformer au gré de leurs envies. Alors, il y en a un en particulier, forcément, Marc Labrèche, c'est celui qu'on découvre en Brenda. Brenda qui n'apparaît d'ailleurs que dans la saison 2, à partir de la saison 2, qui est vraiment un des personnages les plus savoureux de la série. Marc Labrèche est un comique très très connu au Québec. Il est connu pour avoir fait pas mal d'émissions parodiques, pour avoir participé à pas mal de séries aussi. Il est connu aussi pour certains sketchs qu'il a fait, notamment avec Lara Fabian, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un personnage assez connu. La série lui a permis d'atteindre un degré supérieur de notoriété, puisqu'il ça lui a permis de se faire connaître en dehors du Québec. Lui, il prend donc 3 personnages en compte, c'est Brett Montgomery, Brad Montgomery et Brenda Montgomery, bref, les triplés. C'est drôle parce qu'il a vraiment 3 personnages assez distincts. Brett Montgomery, donc ça c'est le garçon de bonne famille, donc le médecin qui est à la fois gynécologue, pédiatre, chirurgien, enfin bref.
Le bon docteur.
Le bon docteur, plein de bons sentiments, qui essaie de faire tout pour sa femme, mais c'est très étrange quand il joue ce personnage-là, parce qu'il est des fois un petit peu faux quand il le joue. C'est le seul regret que j'ai, un des seuls regrets que j'ai par rapport à cette série, c'est que quand il interprète ce personnage, je sais pas. Il y a quelque chose qui passe pas, il manque une petite saveur à ce personnage, il est un petit peu trop lisse. À côté de ça, quand il joue le rôle de Brad, donc ça c'est le fils un peu rejeté de la famille, là il est beaucoup plus juste, et ce qui est très particulier, c'est qu'au début de la première saison, son personnage n'était pas du tout comme celui qu'on connaît par la suite dans les saisons suivantes. Donc on voit vraiment qu'il y a eu un réajustement au niveau de ce personnage, parce qu'au début il était présenté comme quelqu'un qui parlait avec une voix très grave et vraiment le fils voyou, celui qui veut vraiment détruire la Montgomery International, ou en tout cas se l'approprier et qui est prêt à tout, vraiment le côté noir de Brett.
Voilà. Mais c'était un rebondissement qui était fait parce que ça marchait pas, ou bien c'était prévu, parce qu'on a l'habitude dans les soap opéras d'avoir un acteur qui change de visage ou qui change de ton, ou on a un acteur qui était méchant qui devient très gentil.
Écoute, là je crois qu'ils se sont dit, à mon avis en interne, parce que la série a très bien fonctionné dès le départ, on le sent pas ce personnage, il y a quelque chose qui manque, et donc ils ont décidé de transformer ce gars plutôt un peu vicieux en un Bennett qui essaye de temps en temps de faire quelques coups d'éclat. Il devient le maire de St. Andrews dans la saison 3, bon je déflore pas du tout l'intrigue parce que ça n'a vraiment rien d'important, ou alors il essaye d'enterrer son frère Brett vivant, il fait semblant qu'il a perdu deux bras lors d'un tremblement de terre, donc c'est marrant parce qu'on lui remplace ses deux bras manquants par deux immenses bras qui traînent par terre. Et la plupart des gens disent, mais on n'y voit que du feu. Enfin, c'est vraiment, mais en fait, il a toujours ses bras et il les a gardés dans ses poches pendant des semaines, en fait. Donc, c'est vraiment pour dire, c'est de l'humour vraiment très gros. À partir du moment où ce personnage devient un peu plus béné et tout, il devient vraiment très drôle et il change d'accent, il change de voix complètement. Et c'est un réajustement qui a été plutôt judicieux, je pense. Et alors après, il y a le personnage de Brenda, donc qui apparaît au début de la saison 2, mannequin international. C'est comme ça qu'elle est représentée. Et tous les personnages de la série s'accordent pour dire que n'importe quel geste qu'elle fait est empreint de grâce et de beauté. Elle en joue aussi. Il y a toujours une sorte de petite auréole dès qu'elle apparaît avec des étoiles et tout le monde apparemment est sous le charme. Mais bon, quand on la voit, elle a une touche quand même à tomber à la renverse. Bref, elle, en tout cas, est un personnage assez vicieux parce qu'elle a l'air comme ça un peu sossotte, mais elle est bien déterminée à prendre le contrôle de la Montgomery International. Elle y arrivera d'ailleurs à la fin de la saison 2. Malheureusement, un épisode plus tard, elle va exploser parce qu'elle aura bu trop de punch. Elle va s'allumer une cigarette et elle explose. Mais elle réapparaîtra dans la saison 3, bien sûr, bah oui, parce qu'on survit tous. Et en fait, elle est amnésique et elle est devenue une, alors ça c'était très drôle, une jeune immigrante amnésique en recherche d'emploi. Voilà. Donc on va vraiment n'importe où.
C'est le terme exact.
Oui, voilà. Alors, donc ça c'est Marc Labrèche, et alors vraiment quand il interprète Brenda, c'est du vrai bonheur. À côté de lui, ben, il y a l'autre personnage principal, enfin l'autre actrice principale, c'est Anne Dorval. Pas spécialement connue à la base, peut-être au Québec, mais en tout cas ici, vraiment, j'ai eu du mal à trouver des informations sur elle. Et elle est vraiment parfaite dans ces deux rôles de Cricket Rockwell et de Ashley Rockwell. Alors Cricket, donc c'est la future femme de Brett Montgomery. C'est très particulier, c'est qu'elle change quasiment d'épisode en épisode de fonction, de future profession. Et donc, à chaque fois qu'elle se présente, elle se présente avec ce qu'elle a fait ou ce qu'elle va faire. À la fin de la saison 3, on la présente comme étant Cricket Rockwell, semi-célébrité, ex-reporter, directrice de la programmation de la station de télévision de Saint-Andrews, mère en devenir, future femme de médecin, businesswoman, ex-chanteuse de piano bar pour les malentendants, artiste de vaudeville hors pair et hystérique notoire. Et ces titres s'allongent au fur et à mesure, ça devient presque inaudible à la fin, mais c'est vraiment un gag récurrent assez sympathique. Et c'est un personnage assez fort qui aime martyriser sa bonne, Madge. Elle la frappe en continu dans tous les épisodes dès qu'elle peut lui en foutre sur la tronche. Elle joue aussi donc le personnage de Ashley, et qui est aussi un personnage qui a été recadré après un ou deux épisodes, comme Brad. Au début, elle était assez semblable à sa sœur, et au fur et à mesure des épisodes, elle est devenue de plus en plus idiote. Mais vraiment, jusqu'à devenir vraiment l'idiote de base, la blonde avec des gros seins, et c'est vraiment tout. Et qui est toujours dans une sorte de joie de vivre, communicative, qui va essayer de couper une feuille avec une hache, enfin c'est pour vous dire qu'elle est vraiment très bête, enfin voilà, et donc quand quelqu'un vient lui présenter des ciseaux, elle croit que c'est des forces occultes qui ont coupé la feuille, donc c'est pour vous dire, ça va très loin. Parmi les autres acteurs, bon, il y en a d'autres vraiment qui sont aussi très drôles, donc il y a la mère, Crystal Bouvier Montgomery, totalement botoxée, il y a Lewis qui est le maître d'hôtel dans le restaurant, le Royal Coconut Grill Club, où ils vont souvent manger.
Rien que le nom donne envie. Oui.
Voilà, c'est ça. Il y a Meghan Barrington Montgomery qui va être une autre reporter, mais qui est encore plus plus bête que bête, c'est juste un régal. Et puis il y a aussi quelques guest stars aussi.
Avec le Barrington, le nom, on voit vraiment le clin d'œil avec les Carrington de Dynasty en fait.
Certains prénoms qui reviennent là, qui sont des prénoms habituels de Top Model ou des Feux de l'Amour, je pense à Cricket, à Ashley, c'est des noms récurrents dans ces séries.
Société de cosmétiques, Newman Entreprise, Jabot Entreprise.
Montgomery International ici. Donc voilà, et à part donc ces deux acteurs principaux, donc il y en a d'autres comme j'ai dit, et il y a aussi des guest stars québécoises forcément, comme Anthony Cavana ou Isabelle Boulet par exemple, qui fait une apparition assez savoureuse en tant qu'hôtesse de l'air, ancienne fiancée de Brett. Il faut savoir qu'il a 6 ou 7 anciennes fiancées. Elle fait un combat de seins avec Cricket et qui fait en fait cracher l'avion parce que ça a fait trop bouger l'avion tellement c'était énorme. Ils prennent aussi l'avion pour se rendre au centre commercial, c'est un peu particulier, mais et donc quand ils se crachent en plein désert. La cohérence ne fait pas partie de cette maison, comme même le dit un des personnages dans un des épisodes.
Ici Red Steller, bienvenue à Info Action 24/7, édition spéciale. Il y a quelques semaines, notre reporter Cricket Rockwell était tragiquement atteint d'un coup de feu à sa spectaculaire poitrine.
Bref, je suis touché.
Qui est responsable de cette attaque? Un maniaque? Ou peut-être un de ces sales techniciens syndiqués qui travaillent dans mon studio? Qui a fait ça? Montrez-vous! Oui, vous êtes tous des fainéants! Ne touchez pas à mes cheveux! Je suis au Trésor National! Pour plus de détails sur l'enquête, rejoignons Cricket sur les lieux du crime. Cricket!
En effet, Ridge, c'est dans ce restaurant qu'il y a quelques semaines, j'ai été atteinte d'une balle, ici même, à la poitrine. Regardez. J'étais avec mon fiancé, Brett, à cette table. Et cette table où un autre couple de pauvres innocents déguste aujourd'hui un savoureux repas. Un repas que moi, je n'ai pas eu la chance de manger parce que je baignais dans mon sang. Oui ! Oh, j'adore votre blouse. Mais voilà qu'on apprend qu'un témoin aurait aperçu mon agresseur et pourrait l'identifier. Qui est donc mon assaillant ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Participer au concours qui a voulu assassiner Cricket. Vous pourriez gagner des prix magnifiques tels cette superbe machine à laver. En plus de faire disparaître les taches, sorti du dessorage ultra puissant et parfait pour combler les moments de solitude des jeunes célibataires. Si vous voyez ce que je veux dire. Non mais sérieusement, réussirons-nous un jour à démasquer mon agresseur?
On l'aura compris, là, les soap opéras en prennent pour leur grade.
Oui, c'est ça. Déjà, dans le générique, je crois que le générique, visuellement en tout cas, est assez proche d'autres soap opéras. Ici, on voit les personnages en gros plan qui sont à l'intérieur de leur maison avec pourtant beaucoup de vent dans les cheveux et qui prennent une pose assez stupide avec un sourire un peu niais. Et ici, on les voit vraiment défiler, tous ces personnages. Et en fait, ce qu'il y a de particulier, comme dans certains soap opéras, c'est que dans ce générique apparaissent les personnages qui vont faire partie de l'épisode.
Un peu comme dans Les Feux de l'Amour, quoi.
Voilà, un peu comme dans Les Feux de l'Amour, exactement. La parodie vraiment ne s'applique pas que spécialement à l'intrigue ou au générique, ça s'applique vraiment partout au niveau des décors. Par exemple, on est vraiment dans des décors assez cloisonnés, hein. On est à l'intérieur du manoir des Montgomery, on est au restaurant ou on est à la station de télévision de Saint-Andrews, et puis c'est tout. Les décors extérieurs sont souvent assez mauvais. J'en veux pour preuve à un moment quand elles partent faire une petite promenade, Cricket et Brenda dans le jardin, eh bien, elles ouvrent la porte du manoir et elles font un mètre et en fait on voit que c'est une fresque en fait qui est peinte derrière et donc elles marchent sur place en disant mais ce jardin est énorme, ouh, elles finissent quand même par se perdre hein, dans le jardin, donc c'est assez incroyable. Et il y a vraiment plein de détails comme ça au niveau des décors où on voit que par exemple les portes vitrées, ben il y a pas de vitre, donc dès qu'il y en a un qui essaye de s'accrocher, ben il passe à travers. Il y a aussi des moments où les personnages se cognent à des panneaux qui servent de décor et puis le décor s'écroule et donc ils essayent de le remettre. Ils se moquent comme si c'était en fait un soap opéra fauché mais complètement fauché, ils n'ont pas le moyen de refaire certaines séquences et donc ils font avec ce qu'ils ont.
Il y a un bel hommage à Ed Wood là derrière.
Oui, aussi, ouais, effectivement, il y a un gros hommage à Ed Wood. Ce dont il joue aussi beaucoup, c'est les flashbacks. Alors, les flashbacks totalement inutiles qui nous en apprennent sur le passé d'un personnage. C'est là qu'on apprend par exemple que Cricket a été anciennement chanteuse dans un cabaret pour malentendants, même sourd, et donc on la voit en train de chanter et puis après essayer d'expliquer ce qu'elle a chanté en faisant des signes. Enfin, c'est complètement ridicule.
Flashback dans un petit brouillard ou...
Voilà, exactement. Souvent dans un petit brouillard, un peu flouté comme ça. Souvent deux personnages qui parlent ensemble et puis qui s'arrêtent de parler en disant « Mais souvenez-vous » et puis ils s'arrêtent de parler, ils bougent leur tête en regardant un point fixe, en regardant un peu vers le haut comme ça et il y a un petit flash de lumière blanc, le flashback commence et puis il se termine. Mais des fois dans une discussion, il peut en avoir trois quoi. Et donc à chaque fois, ils s'arrêtent et ils regardent et c'est complètement idiot. Surtout que ces flashbacks souvent ne servent absolument à rien, ne font pas du tout avancer l'histoire. Il y a aussi le thème des jumeaux. Alors bon, bien sûr, il y a le côté assez pratique de devoir d'utiliser qu'un seul acteur pour deux rôles. Vient alors le problème de comment se faire rencontrer ces deux personnages quand on est un seul et même acteur. Et ils en jouent beaucoup. Alors autant ils arrivent à faire la chose de manière intelligente encore avec les personnages Brett, Brad et Brenda, autant avec Cricket et Ashley, pour une raison qui m'échappe, ils n'y arrivent pas. Et donc ils créent toujours un moment tout à fait idiot. Et je pense notamment à cette scène où Ashley est à l'hôpital, couchée sur son lit d'hôpital, et Cricket vient lui rendre visite. Alors au lieu de faire jouer l'actrice, Cricket vient rendre visite, et puis alors à la limite, quelqu'un est dans le lit d'hôpital grimé en... Non, ils mettent la vraie actrice dans le lit d'hôpital, et donc celle qui vient la visiter doit avoir toujours quelque chose devant la tête pour faire croire que c'est deux personnes différentes. Et donc elle arrive avec une tête de biche devant elle, et puis après elle prend une bassine, enfin c'est complètement idiot, mais c'est vraiment très 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 drôle. Au niveau des rebondissements aussi, ils n'ont pas peur des rebondissements qui sont totalement invraisemblables, des personnages qui sont morts, qui explosent, qui reviennent à la vie, des morts qui reviennent en spectre, et là aussi on a droit à des effets spéciaux de toute beauté. D'ailleurs les personnages le disent, je vais apparaître dans un effet visuel de toute beauté, et puis on voit effectivement une sorte de fumée qui apparaît, et puis le personnage qui arrive, coucou, c'est vraiment idiot. Il y a plein de gags comme ça qui sont extrêmement visuels, ce qui fait que c'est une série, c'est difficile d'en parler, c'est difficile d'en écouter seulement quelques extraits, parce que 90% des gags sont visuels. Maintenant, je voulais faire une petite critique de la série. Moi, je suis très client, personnellement, de ce genre d'humour visuel, un peu à la Tex Avery, parodique. Maintenant, c'est une friandise. Et comme toutes les friandises, il ne faut pas en abuser. Et je ne conseille pas de regarder tous les épisodes à la suite, sinon c'est toujours les mêmes gags, c'est souvent très lourd. Alors un épisode de temps en temps, ça fait vraiment du bien par où ça passe. On peut regarder ça entre potes et vraiment s'amuser. Il y a certaines séquences qu'on regarde encore avec beaucoup de plaisir. Mais franchement, à ne pas regarder d'une traite, sinon ben on évite lasser, je pense.
Ça veut dire à peu près la même chose à propos d'Arrested Development, par exemple, qui développe le même type d'humour, même si c'est pas du tout la même chose, mais... C'est un humour proche quand même.
Oui, c'est un humour assez proche parce que bon, c'est clair que ben, Le Cœur a ses raisons est assez fauché quand même. Mais sinon, c'est vrai qu'on suit aussi le quotidien d'une famille de magnats, de personnalités comme ça qui se disputent un peu le pouvoir d'une société. Donc on est à peu près dans le même thème, mais avec deux visions un peu différentes de la chose. Parce que autant ben, Arrested Development se moquait plutôt de sitcoms et de séries comme les Osbournes. Donc c'est où on suit vraiment le quotidien avec un peu la caméra à l'épaule. Ici, on se moque quand même plutôt des soap-opéras et on reste dans cette veine-là. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que, outre les sketchs et l'aspect comique, effectivement, il y a ces scènes de soap-opéra qui, si on les compresse, au début de chaque épisode, ils font un petit résumé de ce qui s'est passé précédemment. Et en fait, si on regarde que ça, on a l'impression de regarder un soap-opéra normal avec des rebondissements normaux de soap-opéra, avec rien de spécialement drôle. Donc c'est un petit peu particulier. Ils ont vraiment réussi à mélanger les deux, même si la série n'arrive pas toujours à se détacher de cet aspect sketch. Donc et vraiment, il y a des sketchs des fois qui sont très drôles et d'autres qui sont un petit peu moins drôles ou un peu moins réussis, qui vont moins bien vieillir en tout cas.
Une chose est sûre, la série n'atteindra pas l'âge canonique des Feux de l'amour.
Non. Ça c'est certain, effectivement elle s'est éteinte malheureusement après le 39 épisodes, donc le 13e épisode de la saison 3, il n'y aura pas de saison 4 par faute d'audience malheureusement, je crois que ça s'est un petit peu essoufflé.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.